Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi, Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. L'URD trouve anormal l'exil de Soro Guillaume et salue sa décision de retour au pays. C'est dans cette dynamique que sa présidente Danielle Bonny-Clavry invite le parti au pouvoir à tendre la main aux leaders de Génération et Peuple Solidaire. Les journaux produits par le GFCI, groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, ne sont pas distribués convenablement selon cette structure. Elle estime que cette réalité du terrain fausse les chiffres de vente publiés récemment par l'ANP. Là-dessus, vous entendrez André Woyi, le secrétaire exécutif du GFCI. Hors de nos frontières au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko appelle à la résistance à la veille d'une audience capitale. Et puis l'invité de la rédaction sera Guy Modeste Dobo, conseiller du directeur général de l'Institut de l'économie circulaire. Il nous parlera de l'économie circulaire et du forum tenu à cet effet du 18 au 21 octobre dernier à Abidjan. En fin d'édition, Guy Modeste Dobo sera interrogé par Jean-Mélène Bitti. Soro Guillaume a décidé de mettre fin à son exil politique. Comment la classe politique ivoirienne accueille-t-elle cette déclaration du leader de GPS, Génération et Peuple Solidaire? Là-dessus, la réaction de Danielle Bonny-Clavry, elle est la présidente de l'URD, Union Républicaine pour la Démocratie.
La Constitution ne reconnaît pas l'exil. Alors déjà, je trouve anormal que nous ayons un de nos fils qui soit depuis 4 ou 5 ans en exil. Donc il faut qu'il revienne. Il a décidé par lui-même de mettre un terme à cette vie de fugitif qui doit être quelque chose d'extrêmement pénible sur un plan personnel. Et on voit les conséquences physiques que cela a pu avoir sur lui. Nous nous en inquiétons. Donc qu'il ait pris la décision, moi je la trouve tout à fait normale, tout à fait saine, d'avoir pris la décision de revenir sur son continent natal. Il a choisi de se rapprocher de la Côte d'Ivoire. L'affaire qui sépare le président Alassane Ouattara de Guillaume Soro maintenant est devenue une affaire, je dirais, familiale. Une affaire intime. Alors à partir de là, il y a des paradigmes qui ne sont plus tout à fait rationnels que nous ne connaissons pas. Donc ça rend la situation beaucoup plus compliquée. Donc nous n'avons que des souhaits à pouvoir formuler que vraiment le RH HDP puisse nous montrer que, comme le disait Oufouet, il faut le dialogue, il faut le pardon. Alors, à partir de là, qu'il sache tendre la main, négocier et faire revenir Guillaume Soro dans son pays natal.
Danielle Bonny-Clavry, la présidente de l'URD, Union Républicaine pour la Démocratie. Parlons à présent de lutte contre la corruption dans l'administration publique. Récemment, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a révélé qu'au nombre des personnes assujetties à la déclaration de leur patrimoine n'ont pas encore franchi le pas. Ceci pourrait être lié à diverses raisons, selon Dr Christophe Kwame, le président du Civis Côte d'Ivoire.
C'est des fonctionnaires, des personnes nommées par la fonction publique, par le président de la République, par le premier ministre, et des personnes élues comme les maires et les agents aux maires, les présidents de région et les vice-présidents, les magistrats, les avocats qui ont un certain nombre de niveaux. Donc dans les assujettis, il y a des personnes nommées et il y a des personnes élues qui sont assujetties à la déclaration de patrimoine en Côte d'Ivoire. La loi relative à la déclaration de patrimoine est faite pour contrôler les fonctionnaires, les élus et les personnes nommées qui ne seraient pas dans la mouvance de la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, qui permet de poursuivre les fonctionnaires véreux qui, dès qu'ils sont nommés, utilisent le bien public comme des biens privés, ils détournent les fonds.
Mais il y aurait 1700 assujettis à la déclaration du patrimoine qui ne l'ont pas encore fait. Pourquoi?
La première raison, vous savez qu'il y a des coutumes, il y a des traditions, comme la tradition à Caen, qui interdit qu'un individu fasse savoir ses biens de son vivant. Donc, étant donné que nous étions de la société civile, nous avons travaillé ensemble en collaboration avec la haute autorité pour qu'on franchisse le pas culturel. Il y avait la religion pour d'autres qui était un autre frein, et c'est ces éléments-là que la haute autorité a mis dans le même bouquet pour dire « il faut que tout le monde comprenne le bien fondé ».
À l'instant, docteur Christophe Kouamé, le président de Civis Côte d'Ivoire, avec Francis Cassis. La cour d'appel de Daloa a tenu récemment son audience solennelle de rentrée judiciaire 2023-2024. Les personnes enregistrées sous une fausse identité ont été invitées à régulariser leur situation sans risque de sanction. Autre cas évoqué, les nombreux cas de viol et de consommation et trafic de drogue dans le Haut-Sassandra. Un compte rendu signé Jean-Noël Kouamé.
Au cours de cette audience solennelle de rentrée judiciaire, la question de la fraude sur l'état civil en Côte d'Ivoire a fait l'objet d'un exposé par le procureur général Koulibaly Aboubakari.
En 2018, la loi est intervenue pour permettre pour ceux qui avaient commis des faux qu'ils se mettent en règle en recouvrant leur véritable identité. Et le législateur a prorogé à partir du 22 décembre 2024 plus d'amnistie pour ceux qui ont fraudé, qui n'ont pas fait régulariser leurs actes. Le cas, celui qui est empêché de passer un concours qui va prendre l'extrait de naissance d'un parent de quelqu'un qui est moins âgé, les cas des enfants qui ne sont pas reconnus par leur père biologique, le frère, le cousin ou bien le père même de la mère qui donne son nom à l'enfant, ça peut créer d'autres soucis après. Les peines vont de 15 jours à 10 ans.
Madame le président de la cour d'appel de Daloa, Fian Adou Rosine, est pour sa part revenue sur les statistiques et autres infractions dans le Haut-Sassandra.
Le viol est encore récurrent dans notre zone et puis les histoires de drogue, stupéfiants. Aujourd'hui, la jeunesse n'est pas épargnée. En 2021-2022, on avait rendu 2008 arrêts. En 2022-2023, nous avons rendu 2019 décisions disponibles. Les parties peuvent venir retirer leurs décisions.
Au cours de cette audience, 4 nouveaux magistrats ont été nommés en tant que président de chambre, conseiller et avocat général. Et 18 nouveaux magistrats ont prêté serment à cette rentrée judiciaire. Jean-Noël Kouamé, Daloa, Radio de la Paix.
Le GEPSI, groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, rejette les chiffres de vente des journaux publiés par l'ANP, Autorité nationale de la presse. Selon André Woyi, le secrétaire exécutif du GEPSI, ces chiffres ne tiennent pas compte des réalités du terrain.
On a toujours dit qu'on n'est pas d'accord avec les chiffres fournis par l'ANP. Parce qu'on a un gros problème avec le distributeur qui est Edipresse. Les journaux que nous produisons ne sont pas distribués convenablement comme il se doit. Là, aujourd'hui, Edipresse n'arrive à peine à couvrir 30% du territoire national. Même à Abidjan, même, elle a des difficultés pour alimenter les points de vente. Donc, ces chiffres-là, on les a toujours dénoncés. On dit que ces chiffres ne sont pas corrects, ne sont pas conformes à la réalité sur le terrain. L'ANP a l'obligation de trouver les résultats, mais au moins, il faut qu'elle s'assure que l'entreprise qui distribue là, ils travaillent correctement. Bon, avec quand même les autorités, on a dû chercher à renforcer les capacités d'Edipresse pour qu'ils puissent être en mesure de travailler. Le constat, c'est que Edipresse n'a plus de logistique et travaille avec la Poste, qui est elle-même une entreprise qui est malade. Là, actuellement, il y a une étude en cours financée par l'ASDM. Si l'étude montre que Edipresse est en faillite, nous, au niveau des éditeurs, on est déjà prêts. On se prépare à prendre la chose en main. On ne peut pas produire, nous, on ne peut pas produire et puis ne pas être en mesure de les vendre. C'est un problème. Donc, on veut prendre toutes nos responsabilités et en attendant déjà, on a déjà créer notre plateforme de vente des journaux en ligne sur Presse Côte d'Ivoire, mais il faut aller plus loin. Et nous travaillons donc aussi à soi notre propre entreprise de distribution. On fait avec, mais c'est difficile, et les chiffres que vous avez sont de faux chiffres.
André Woyi, secrétaire exécutif de GEPSI, groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, joint par Christelle Yesso. Politique de renouvellement du parc auto par le ministère des Transports. Les 15 derniers minibus de la phase pilote ont été remis jeudi aux transporteurs. Ce projet se poursuit avec satisfaction, au dire des acteurs du secteur des transports. Gignon Cardin, qui était à la cérémonie, nous fait son compte rendu.
Avant la remise au récipiendaire du jour, la représentante du Fonds de développement du transport routier Bintou Magassa a relevé quelques caractéristiques de ces véhicules.
Les véhicules ont été équipés avec des systèmes de géolocalisation appelés GPS. Donc on a la possibilité de suivre le véhicule en temps réel et les paiements journaliers se font à travers une plateforme dédiée Baka Ivoire.
Puis, il est revenu au directeur de cabinet du ministre des Transports, Diomand Kone, d'annoncer la bonne nouvelle aux transporteurs.
Monsieur Amadou Kone, ministre des Transports, par ma modeste voix, est très heureux de remettre les 15 derniers véhicules Iveco du projet dénommé 40 minibus abidjanais à des conducteurs de véhicules Baka qui desserviront les communes de Yopougon, d'Abobo et celles d'Adjamé.
Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire a prodigué quelques conseils aux récipiendaires du jour, Diaby Ibrahim.
La première des choses que vous devez retenir, chers bénéficiaires de ce jour, c'est que la Côte d'Ivoire vous regarde. Vos familles vous regardent. Vous n'avez pas droit à l'échec. Vous devez être un modèle de la professionnalisation du secteur du transport qui veut que les populations nous fassent confiance à nouveau, rétablissent l'image normale du transporteur, nous départissent d'un secteur dégradé, désorganisé, nous enlèvent ce nom de délinquant, d'arrogant, d'irrespectueux pour que nous retrouvions la vraie image des opérateurs du transport parce que nous sommes des acteurs de développement.
Les transporteurs ne seront propriétaires des véhicules qu'après paiement intégral de la somme convenue dans le protocole.
Au cours de la première session ordinaire du Conseil régional consacré à la mise en place des commissions permanentes et du comité économique, social et environnemental régional, le samedi 11 novembre dernier, toutes les sous-préfectures du Lodibois ont été mises en compétition dans la collecte de recettes propres par le président du Conseil Amédée Koffi Kouakou. En ligne de Divo, notre correspondant Abel César Kassa.
Plus de 90% des conseillers étaient présents à cette session, rehaussée par la présence du préfet de Lakota, Lassina Binaté. La première vice-présidente du conseil, Nadine Yeba, a rendu public les noms des responsables des 7 commissions permanentes. Le ministre Amédée Koffi Kouakou, celui du président du CESER, Comité économique, social et environnemental régional. D'égale importance, le ministre Amédée a mis toutes les sous-préfectures du Lodibois en compétition pour la collecte des fonds propres.
1,4 milliard. Vous pensez que 1,4 milliard peut régler les problèmes de toute la région? Vous êtes des conseillers, vous devez parler à nos parents. Si l'argent rentre dans les caisses, on va prendre pour travailler pour eux. Quand on va faire le programme triennal, les recettes qu'on va avoir, ça va être classé par sous-préfecture. Donc chacun dans une zone doit s'arranger pour que les ressources qu'on prend là rentrent effectivement dans les caisses du conseil régional.
Le conseil PPAC, parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, Lida Kwasi Moïse, a fait d'utiles propositions au cours de cette session. Il en donne les raisons.
Nous envoyons ce message de cohésion, d'unité à la population pour qu'elle-même et se rendre compte que c'est dans la cohésion, dans l'unité, qu'on va atteindre les objectifs.
À noter que l'un des conseillers a suggéré la tenue d'un séminaire de mise à niveau à leur intention pour maîtriser l'écosystème d'un conseil régional pour plus d'efficacité. De Divo, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Après le Lodibois, direction le Gbeke, où le budget du programme triennal 2024-2026 du conseil régional a été arrêté à un peu plus de 11 milliards de francs CFA. Ce programme a été adopté à l'occasion de la deuxième session de l'institution tenue le vendredi 10 novembre. On en sait un peu plus avec vous, Joseph Assalé, notre correspondant de région.
Le programme triennal 2024-2026 du Conseil régional de Gbeke, qui se chiffre à un peu plus de 11 milliards de francs CFA, a une particularité selon le premier responsable de cette institution décentralisée, Jacques Assaoré Kona.
C'est un programme transitoire qui vise à achever les travaux qui ont déjà été entamés par la commission spéciale, mais nous avons profité pour inscrire quelques actions et opérations. On prend en notre compte que l'excellent travail fait par le préfet de région à la tête de la commission spéciale. Et progressivement, nous allons intégrer de nouvelles actions avec les suggestions que les commissions nous ont faites.
Elle révèle que les ressources propres au Conseil régional de Gbeke étant insuffisantes, à la dimension de l'ambition, des stratégies sont envisagées.
On va compter aussi sur la coopération internationale. Il faut qu'on tisse des partenariats et il y a des bailleurs qui sont prêts à financer des actions dans nos régions. Mais il faut qu'on fasse les démarches, il faut qu'on monte des dossiers sérieux.
D'autre part, le président du Conseil régional salue la présence des conseillers du PDCI à cette deuxième session. Maître Blessy Jean Chrysostome rassure que sa formation politique prendra toute sa place au sein de cette institution pour contribuer à booster le développement local.
Nous allons prendre part et nous allons participer au conseil régional de façon la plus honnête possible. Une fois qu'il y a une action de développement, des actions de développement primaires pour les populations, ces actions-là n'ont pas besoin de coloration.
Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Sur le continent, l'opposant sénégalais emprisonné Ousmane Sonko a appelé jeudi soir ses soutiens à la résistance. La Cour suprême sénégalaise doit examiner ce vendredi un recours de l'État contestant l'annulation par un juge de Ziguinchor de la radiation des listes électorales de Ousmane Sonko. Cette radiation des listes l'empêche d'être candidat à la présidentielle du 25 février 2024, apprend l'AFP. De retour en Côte d'Ivoire, direction la ville de Korogo, qui est à pied d'œuvre pour accueillir supporters et amoureux de football lors de la CAN 2023. La directrice régionale du tourisme du Poro dévoile ici les dispositions pour permettre aux visiteurs de découvrir la stratégie sublime Côte d'Ivoire dans cette région. Conné Blandine.
Il faut dire que le ministère du tourisme, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie sublime Côte d'Ivoire, a initié la réhabilitation des sites touristiques qui ont été délabrés à l'occasion des nombreuses crises que nous avions connues. Et là, nous avons fini la réhabilitation de deux sites déjà, le site de Katia, qui est un site de tisserand, le site de Faka, où on fait la peinture sur toile. Ce sont des sites qui sont réhabilités. Et cette année, il y a deux autres qui sont en chantier, notamment le site des forgerons de Kony, le site de Capelé, où on fabrique les colliers en perles. On se dit que lors de la compétition, on peut être débordé au niveau des hôtels. Donc, il faut avoir ces structures-là sous la main, de sorte à ce que, bon, si on est vraiment coincé, on puisse orienter les gens vers ces établissements. Avec mes opérateurs, on en parle tous les jours. Tout le monde est conscient de l'enjeu, du défi qu'il y a à relever et nous les appelons tous à l'amélioration, surtout des prestations, à la qualité des prestations dans leurs établissements, de sorte à donner satisfaction à toutes ces personnes qui vont venir à Korogo pour la CAN 2023.
À l'instant, vous écoutiez la directrice régionale du tourisme du Poro, Conné Blandine, dans des propos recueillis par notre envoyé spécial à Korogo, César Yao. À présent, l'invité de la rédaction qui aujourd'hui est Guy Modeste Dobo, conseiller du directeur général de l'Institut de l'économie circulaire. Il nous parle de l'économie circulaire et du forum tenu à cet effet du 18 au 21 octobre dernier à Abidjan. Guy Modeste Dobo, qui était également le commissaire général de cet événement, est interrogé par Jean-Mélène Bitti.
Guy Modeste Dobo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller du directeur général de l'Institut de l'économie circulaire et par ailleurs commissaire général du Forum africain de l'économie circulaire qui s'est tenu du 18 au 21 octobre 2023 à Abidjan.
Oui.
C'est quoi l'économie circulaire?
L'économie circulaire renvoie à un modèle économique qui s'oppose à celui qui est adopté actuellement, c'est le modèle dit linéaire. L'économie circulaire, c'est un modèle qui veut redonner vie, qui s'appuie sur un certain nombre de principes, qui consiste à mieux produire, à mieux consommer et à recycler et à donner vie aux produits lorsqu'ils sont arrivés en fin de vie. Et donc, il s'agit d'un concept qui repose sur l'idée largement répandue, qui consiste à dire que rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, donc il s'agit d'un modèle vertueux qui également tente de préserver la ressource, tente de préserver la nature et de lutter contre les changements climatiques.
De façon concrète, si on voudrait donner un exemple.
De façon concrète, vous avez entendu parler des Samarakoro. Ce sont des personnes qui viennent prendre vos vieilles chaussures et qui vont les faire recycler pour donner une nouvelle vie à la matière. Vous connaissez les ferrailleurs qui reprennent les objets dans les familles, qui vont les refondre pour que finalement on les utilise encore comme des outils de travail. On parle aussi d'économie circulaire dans la gestion des déchets organiques. Vous mangez et les restes de nourriture, on en fait du compost et ce compost va alimenter un potager, vous permet d'avoir de meilleurs rendements. Vraiment tout cet ensemble de pratiques qui s'appuie sur le fait que lorsque nous avons un déchet, il ne doit pas être considéré comme un déchet. Le ministre Gouvernement dit qu'il s'agit de l'ordure, que les ordures sont de l'ordure. Il s'agit donc des ressources nouvelles qui peuvent permettre de créer des richesses.
Alors, au terme de cette rencontre, quelles sont les décisions importantes qui ont été arrêtées?
cette rencontre qui a donné lieu à des panels, à ce qu'on appelait des masterclass et des foires à projets. Il y a des panels de haut niveau qui ont permis à des experts venus de différents pays de se retrouver, d'échanger. Alors globalement, des recommandations, c'est effectivement qu'on puisse créer des fonds pour soutenir la créativité en matière d'économie circulaire, qu'il y ait également des plateformes permettant de capitaliser toutes les initiatives proposées en économie circulaire, qu'également les pouvoirs publics puissent intégrer l'économie circulaire dans les modes de gestion des territoires qu'ils administrent. Voilà un peu ce genre de choses qui ont été proposées par les différents chercheurs. J'ai manqué de dire qu'également, il a été proposé de promouvoir ou de faire connaître les résultats de la recherche. Certaines universités et grandes écoles font des recherches en la matière, mais c'est de tout faire pour que ces données soient comprises. Également, qu'on puisse renforcer la sensibilisation des jeunes pour que, à partir de les populations adoptent de bonnes pratiques en matière d'économie circulaire, que les gens trient les déchets, que quand vous avez une bouteille plastique, vous puissiez la déposer dans un coffre spécialisé, que vous avez des restes de nourriture, vous puissiez les déposer dans un autre coffre, et vous avez des déchets de papier, vous les mettez dans un autre coffre, et des industries, des sociétés spécialisées dans le recyclage de ces déchets pour qu'elles puissent les récupérer. Voici autant d'orientations qui ont été proposées, et il est donc demandé que les collectivités qui ont pris l'option effectivement de mettre en place des stratégies territoriales puissent adopter ces bonnes pratiques.
Alors, il est demandé aux collectivités d'adopter ces bonnes pratiques. À l'endroit de ces citoyens, quelles sont les attitudes qu'ils doivent adopter pour atteindre ces objectifs-là?
Les collectivités créent les conditions pour que les ménages puissent éventuellement suivre les directives. Donc, il ne s'agit pas forcément que l'action se limite aux collectivités elles-mêmes en tant que structure administrative, mais qu'elles mettent en place un dispositif pour impliquer les populations. Donc, les populations sont invitées au changement de comportement, à regarder différemment les déchets qu'ils produisent, à regarder différemment leur mode de vie. Notamment, quand par exemple vous prenez un véhicule, si vous avez la possibilité de partager avec un autre, que vous le fassiez. Le principe le plus important, c'est que la collectivité crée les conditions pour que les ménages puissent suivre. C'est-à-dire que si vous avez éventuellement tenu des discours du genre « il faut que les gens puissent trier les déchets », il faut effectivement que se mettre à la disposition de ces ménages pour leur créer les conditions pour qu'ils puissent obtenir des poubelles spécialisées. Si on le leur dit et que finalement il n'y a aucun dispositif qui est mis en place, ce ne serait que des œufs. C'est un programme, c'est un modèle de développement qui ne doit pas rester qu'au seul niveau des collectivités, des pouvoirs publics, mais qui doit faire en sorte que chacun à son niveau puisse participer à la transition écologique, à la révision des pratiques de tous les jours.
Alors, Monsieur Dobodji, merci beaucoup.
Aujourd'hui invité de la rédaction, Guy Modeste Dobo, conseiller du directeur général de l'Institut de l'économie circulaire, répondait aux questions de Jean-Mélène Vitti. C'est ce qui marque la fin de cette édition, dont voici le rappel des titres. L'URD trouve anormal l'exil de Soro Guillaume et salue sa décision de retour au pays. C'est dans cette dynamique que sa présidente Danielle Bonny-Clavry invite le pouvoir à tendre la main aux leaders de Génération et Peuple Solidaire. Les journaux produits par le GEPSI, groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, ne sont pas distribués convenablement selon cette structure. Elle estime que cette réalité du terrain fausse les chiffres de vente publiés récemment par l'ANP, Autorité nationale de la presse. Merci de votre attention avant de nous retrouver à 15h pour un flash d'information, la revue de presse avec Francis Cassis.
Bonjour à tous. C'est par la réaction du gouvernement à l'affaire. Soro veut mettre fin à son exil dans une vidéo circulant depuis quelques jours sur Internet que s'ouvre notre examen de vos journaux de ce jour. Retour de Guillaume Soro, ex-premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Personne ne l'empêche de rentrer. Réaction officielle du gouvernement par la voix de son ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, dans Fraternité Matin. Pareil pour l'Inter avec cette phrase, le retour de Soro dépend de lui. Qu'il affirme, le général Vagondo, avoir tenu, tout en ajoutant, mais il ne s'agit pas de craindre le retour d'un tel ou tel qui vient dans son pays. Je vous ai dit que ça n'appelle aucun.